C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous vous diffusons la conférence Démystifions le RGPD faite au Capitole du Libre avec Benjamin Bénifet.
Donc, on va juste poser deux, trois bases, les définitions, pour qu'on parle tous de la même chose. Une donnée à caractère personnel, qu'est-ce que c'est ? Vous avez les journalistes ou les écrits de vulgarisation qui vous parlent très souvent de données personnelles. Le terme idoine, le terme qu'on trouve dans les normes, c'est données à caractère personnel. Et tout simplement, les données à caractère personnel, c'est une donnée qui permet d'identifier indirectement ou directement une personne physique. On parle ensuite, désolé pour tout ce blabla un peu juridique, mais il faut qu'on pose les bases. Il y a ensuite un deuxième acteur, outre la personne concernée dont on va traiter les données, dont on va collecter les données, dont on va croiser les données, on a le responsable de traitement. Le responsable de traitement, c'est celui qui pose les finalités et moyens du traitement de données à caractère personnel. Et le traitement de données à caractère personnel, c'est très schématiquement toute opération sur des données à caractère personnel. De la collecte à la suppression. Et tout au long de la vie de ces données, dès lors qu'on les consulte, dès lors qu'on y a accès, dès lors qu'on les transfère, dès lors qu'on les chiffre, tout ça, ce sont des traitements de données à caractère personnel. Donc vraiment, dès lors qu'il y a une opération sur les données, même de la création du fichier jusqu'à sa destruction, ce sont des traitements. Et tous ces traitements entrent dans le cadre des diverses normes, et notamment donc du RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données.
Et maintenant, vous êtes là, on va vous faire participer, on va faire un quiz. Alors n'hésitez pas à répondre, c'est un QCM, hein, relativement simple. Et dites-vous bien que d'autres parlent plus du RGPD que nous, et en savent moins que vous. Et on le voit tous les jours, et encore ce matin. Bref, on y va. Première question, jusqu'ici, il est impossible de se faire retirer d'une liste de démarchage publicitaire. Je vais vous demander de lever la main ceux qui pensent que oui. Ça veut dire qu'il y en a qui ont tenté, peut-être. Ceux qui pensent que non, c'est pas impossible. Ouais. Et ceux qui pensent qu'ils ne sont pas sûrs. Ouais, c'est mitigé, hein. Mais ça reste une grande majorité de non. Et ça tombe bien.
Oui. Le RGPD, le règlement général, est souvent présenté par divers prestataires comme une révolution. En fait, non, ce n'est juste que la continuité des normes qu'on avait en vigueur, une harmonisation. Et effectivement, les normes en vigueur prévoyaient le fait de pouvoir faire supprimer ces données dès lors qu'elles n'étaient plus pertinentes. Il y a des conditions. Il y a des conditions pour accéder aux données qui vous concernent, les données qui sont traitées et qui vous concernent. Mais vous pouviez avant le 25 mai de 2018 faire supprimer les données, notamment vous concernant, pour un démarchage publicitaire dès lors que vous n'êtes plus intéressé.
Jusqu'ici, la CNIL a très peu sévi. Alors, qui pense que oui ? Et ça fait bien 40% de la salle. Qui pense que non ? La CNIL a très bien sévi jusqu'ici ? Zéro. Et qui pense que ne se prononce pas ? Ouais, 30%.
Bon. La CNIL, Commission nationale de l'informatique et liberté, qui existe depuis 78, est une autorité administrative indépendante. Et en fait, elle a sévi. Elle fait des contrôles concernant des fichiers d'opérateurs publics comme d'entreprises privées. Et elle a sévi. Le problème, c'est qu'elle fait avec les moyens qu'elle a. La CNIL, c'est, je crois, 250 personnes. L'équivalent de la CNIL, l'AICO, l'équivalent britannique, à 500 personnes. Donc on voit beaucoup plus l'action quotidienne de l'autorité de protection britannique. Mais le problème, c'est que la CNIL a mis des amendes, la CNIL a contrôlé, la CNIL a publié des mises en demeure. Vous vous souvenez tous du petit bandeau qu'il y avait sur Google.fr tout un week-end, qui a fait tomber le site de la CNIL parce que tout le monde cliquait sur le lien qu'il y avait en bas de page. Donc voilà.
Et aussi une chose, hein, par rapport à l'AICO, ouais, la CNIL, il y a un plateau téléphonique, on peut les appeler sur les questions, alors que l'AICO, tout est sur le net. La contrepartie, c'est que le site de l'AICO est superbe.
Ouais, c'est vrai. Et on parle souvent, j'ai vu votre question, on parle souvent des sanctions pécuniaires, c'est-à-dire des amendes pour parler du RGPD. Vous avez pas mal de, pas mal de, de boîtes qui vous font de la pub en disant faites attention, mettez-vous en conformité parce que vous risquez jusqu'à, oui, 20, c'est vrai, c'est dans les textes, jusqu'à 20 millions d'euros d'amende ou 4% du chiffre d'affaires mondial, je précise. Oui, ça fait peur, mais personnellement, je serais responsable de traitement, je serais une entreprise pas en conformité. Moi, j'aurais plus peur qu'on me file une autre sanction, par exemple la sanction d'arrêter le traitement. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus collecter les données ou vous ne pouvez plus utiliser les données. Imaginez si, par exemple, schématiquement, on empêchait à Google de collecter des données sur tous les citoyens européens. Personnellement, je pense que ça leur ferait beaucoup plus de peine que avoir une amende certes qui paraît exorbitante. J'ai une question. Oui. Je ne sais pas si on les prend au fur et à mesure.
On va les prendre après parce qu'on a vraiment beaucoup de points et tout va dépendre du temps qu'on aura. Donc je suis vraiment désolé. Une adresse IP, une adresse MAC ne sont pas des données à caractère personnel. Qu'est-ce qui pense que oui, ça n'est pas des données à caractère personnel? Une fois, deux fois, trois fois. Ouais, on va dire 5%. Non, c'est une donnée à caractère personnel. 80%. Et qui sait pas. Bon, c'est une forme. Hein.
Donc, ce qu'il faut voir, c'est que je reviens à la définition que j'ai posée il y a 3 ou 4 slides. Dès lors que ça permet d'identifier une personne physique, une personne précise, c'est une donnée à caractère personnel. En l'espèce, on a eu des décisions de justice au plus haut niveau puisqu'on a eu des décisions de la CJUE, Cour de justice de l'Union européenne. En fait, par exemple, vous êtes un fournisseur d'accès Internet, vous savez très bien lequel de vos abonnés se trouve derrière quelle adresse IP à un instant donné. Donc, dès lors, c'est une donnée à caractère personnel.
Le RGPD est illisible, il est écrit « In English Technocrat from Brussels », comme les autres règlements européens. Qui pense que oui, c'est illisible? Non, il est lisible. Ah, 50-60%, ouais, pas mal. Et ils se prononcent pas parce qu'ils l'ont pas lu. 20%, d'accord.
Il y a beaucoup
non, mais il faut être honnête. Hein. Moi, j'ai trouvé beaucoup plus illisible que ça, je vous rassure.
Donc, le règlement général est bien entendu traduit dans toutes les langues de l'Union européenne. Certes, il est un peu volumineux, mais la data est partout. On rebat les oreilles sur ça. Donc, il était important quand même de préciser le régime de tous ces traitements de données à caractère personnel. Et oui, effectivement, c'est plus lisible que du Marc Lévy.
Et en plus, je vais vous dire une chose, c'est que moi-même, je ne suis pas franchement un spécialiste, mais je me le suis fadé en un week-end, et c'est que de la bonne pratique à l'intérieur. C'est d'une lisibilité, franchement, c'était l'été, donc j'étais auprès de la piscine. Les deux me tentaient autant. Honnêtement, rarement j'ai vu un règlement européen aussi lisible. Plongez-vous dedans. Et pas « Non, c'est pas la peine de le lire, c'est illisible. » On ne citera personne, on fera pas du name and shame. Non, parce qu'il y a des spécialistes RGPD qui disent aux entreprises « Non, mais vous perdez pas de temps à essayer de le lire. » Et après, on se rend compte qu'eux-mêmes ne l'avaient pas lu. Donc, voilà. Le RGPD a été créé pour que les GAFAM prennent encore plus de nos données personnelles. Qui pense que oui? Ok. Qui pense que non? Ouais, 80%. Et qui pense que... 10%. Parce qu'on pense que vous avez
10%.
On pensait que vous avez lu du Laurent Alexandre, un truc comme ça. Mince.
On avait dit pas de name shaming.
Bon, c'est bien. Bref, vous avez bien compris qu'en fait, le RGPD a été motivé effectivement sur la concentration en silo des données. Et en fait, il est vraiment passé comme une lettre à la poste, justement par la révélation Snowden, par le fait que les services de renseignement pompent d'autant plus facilement la donnée que tout est dans certains silos. Le RGPD a été écrit par les GAFAM pour empêcher les entreprises européennes d'être compétitives.
Ça, c'est quelque chose qu'on entend.
On l'entend. Hein. Ce qu'on vous écrit, en fait, c'est souvent des trucs qu'on entend. Et dans les médias, des fois, dans les très gros médias. Donc, qui pense que oui, ça a été écrit par les GAFAM? Quand on connaît le budget que Google met pour aller voir les eurodéputés, je ne serais pas surpris. Hein. Non. Hein, ouais. On est à 80% et... 5%, au moins soyons honnêtes.
Donc là, on vous a mis le titre complet du règlement. Donc c'est, on parle beaucoup de RGPD ou GDPR. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, ce règlement a deux objectifs, deux finalités principales. La première, c'est la protection des données à caractère personnel des individus situés sur l'espace de l'Union européenne. Et la deuxième finalité, c'est vraiment de favoriser la libre circulation de ces données dès lors que cette circulation est faite de manière encadrée, dès lors qu'elle est respectueuse de la vie privée des individus dont on traite les données. C'est-à-dire dès lors qu'on les a informés que ces données sont traitées, il y a toute une batterie de principes, dès lors qu'ils savent où vont ces données, ce qu'on va faire avec, etc., etc. D'autant plus lorsque vous faites au sein de l'Union européenne, cette libre circulation des données est acquise. Par contre, au sein, plus largement au niveau, à l'échelle mondiale, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a diverses conditions, notamment le fait d'adhérer à des principes protecteurs, le fait d'avoir une loi nationale dans le pays où on envoie les données qui est protectrice également des données à caractère personnel. Donc il faut pas voir le règlement comme quelque chose qui va empêcher les entreprises d'être compétitives, qui va les empêcher de faire du business. Au contraire, on pense que ce processus d'amélioration continue de la protection de la vie privée, c'est quelque chose qui pourrait être un avantage compétitif des entreprises européennes, comme américaines, etc., comme on va le voir dans quelques
semaines. Et comme on l'a dit, c'est des bonnes pratiques, notamment il y a tout ce qui est gestion documentaire. Si vous êtes intéressé à comment tout le cadre juridique sur la GED, c'est ni plus ni moins que les transpositions des normes ISO. Voilà. Les entreprises américaines sont bien mieux préparées que les entreprises européennes. Qui pense que oui ? 15%. Qui pense que non ? Elles sont moins bien préparées. 35%, hein, c'est à vue de pif. Et à vue de pif d'ailleurs, qui pense que pif paf, même pas. 30% pensent que non, c'est pas. Eh ben, je vais vous surprendre.
Ouais, il y a pas mal d'études qui montrent que les grosses entreprises américaines, notamment ce qu'on appelle les GAFAM, sont mieux préparées pour être conformes au 25 mai 2018 aux règles du règlement général du règlement général sur la protection des données. Oui, effectivement, il y a pas mal d'entreprises françaises qui n'étaient déjà pas conformes au texte de 78, remanié, etc., etc. Mais là, pour le règlement général, ça devient vraiment pressant de se mettre en conformité.
Et à vrai dire, c'est un cabinet d'avocats qui, je crois, est basé à Chicago, qui a la plus grande masse d'informations sur, d'abord, la différence entre le droit américain et le droit européen, mais aussi sur les transpositions de chaque pays, ce que cela change dans chaque pays. C'est quand même affolant de voir qu'un cabinet d'avocats américains fournisse une masse de documentation monstrueuse sur leur site, à tel point qu'on aurait plus envie de dire à des grosses boîtes européennes, allez les voir. C'est terrifiant.
Ou plutôt, allez les voir, mais mettez-vous vous-même en conformité. Quoi. Enfin,
clairement. Le Privacy Shield va rester. Alors,
je vais expliquer très brièvement ce qu'est le Privacy Shield. Donc, comme je vous ai dit, il y a des mécanismes qui permettent d'assurer une protection des données à caractère personnel lors des transferts internationaux. Notamment, il y a le Privacy Shield. Le Privacy Shield, ce sont des entreprises américaines qui peuvent adhérer à certains principes qui sont censés apporter un niveau de protection, un niveau de protection adéquat pour les données qui transiteraient, par exemple, de la France vers les États-Unis. Le problème, c'est que le Privacy Shield est la suite du Safe Harbor, le Safe Harbor qui a été invalidé par la Cour de justice de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce qu'un étudiant autrichien, Maximilian Schrems, que vous connaissez peut-être, a réussi à faire invalider la décision de la Commission européenne qui instituait donc le Safe Harbor, parce que les garanties sur les données personnelles des citoyens européens n'étaient pas là dans le Safe Harbor. Et Maximilian Schrems est d'accord pour dire que le Privacy Shield, c'est la même histoire.
Bon, qui pense que le Privacy Shield va rester ? 2%, d'accord. Non. Ouais, 15% et ne se prononce pas. Je pense que là-dessus, il y a une belle indécision. Juste pour savoir, vous avez déjà une idée de pronostic là, pour qui va être le président du mouvement En Marche ? Bon, honnêtement,
Ouais, on espère bien que non, parce que c'est vrai que le Privacy Shield, c'est pas mal d'auto-certification. Certes, on a fait entrer des tiers pour assurer la conformité des entreprises américaines, mais c'est pas génial. C'est pas le niveau de protection qu'on attend au sein de l'Union européenne. Donc, on pense que la CJUE, la Cour de justice de l'Union, va invalider ce mécanisme. Et je vous rappelle que ça avait été un énorme chaos quand le Safe Harbor avait lui-même été invalidé. On avait plein d'entreprises européennes qui démarchaient leurs sous-traitants en leur disant « Ah, vous avez des données personnelles concernant nos salariés ou nos clients. Qu'est-ce que vous faites pour si vous les envoyez aux États-Unis parce que le Privacy Shield, le Safe Harbor est tombé ?» Et c'était un joyeux bordel parce qu'il n'y avait plus de mécanisme en fait. Enfin, il y avait d'autres mécanismes, mais le mécanisme principal qui permettait l'envoi de données entre l'Europe et entre l'Union européenne
qui
et
autorisé.
Les États-Unis, qui autorisait, autorisait ce transfert, ce mécanisme principal n'était plus en vigueur, il a été invalidé. Et on pense que ça va être pareil pour le Privacy Shield d'ici quelques années.
Deux fichiers dont il y a une copie systématiquement aux États-Unis alors que ce sont les données purement européennes. SWIFT, le système de traitement des données, des paiements par carte bleue, tout paiement par carte bancaire que l'on fait en Europe, même si ça reste en Europe, et une copie qui va aux États-Unis, c'est pour la lutte contre, pas contre le terrorisme, mais contre les narcotrafiquants. Un autre, c'est le PNR, c'est le fichier des passagers, qui n'est pas encore totalement unifié, et qui comporte une masse d'infos sur vous absolument stupéfiante, et qui lui a aussi, mais alors cette fois-ci pour les lois antiterroristes, les Américains ont exigé des Européens que ce fichier soit hébergé chez eux, sinon ils faisaient une fouille, pratiquement au corps, de tous ceux qui venaient par les compagnies aériennes européennes. Sympa.
Il nous reste 5 minutes.
Ok. Si une entreprise met ses données sur AWS, elle est en tort avec la RGPD.
Avec un T en tort.
Non, je t'avais dit.
Ouais.
Bon, qui pense que héberger ses données sur Amazon Web Service nous met en tort sur le vis-à-vis du RGPD? Qui pense que non? Ouais, c'est bien. Et qui pense que... bon, ok. Bon, alors d'abord, c'est le, parce que c'est le règlement, hein. T'exagères. Et ensuite, ben, comme on l'a dit, ils ont des très bons cabinets d'avocats, ils sont très bien conseillés, et qui plus est, Amazon Web Services, ils ont des zones en Europe, mais ça va même plus loin, puisque par exemple, Microsoft, suite à la révélation des écoutes d'Angela Merkel, Microsoft Allemagne, leur solution Office qu'ils présentent aux entreprises, c'est plus Microsoft qui opère. Maintenant, c'est Deutsche Telekom. Et c'est juste un accord de licence. Ils sont allés devant, d'ailleurs, une commission de défense et du Sénat américain qui n'était pas content. Mais comment ça? Mais comment ça se fait? Et tout. Il fait, ah non, c'est juste un accord commercial. Il n'y a aucun lien. On ne peut pas vous filer les infos.
Ouais, quand vous avez recours à un prestataire, notamment de cloud, vous avez toute la liste de ses certifications, toute la liste des méthodologies qu'il utilise, notamment pour être conforme à diverses normes et dont le futur RGPD, enfin le RGPD. Donc vraiment, ce qu'il faut, bien sûr, il faut avoir confiance en ces certifications, mais allez jeter un coup d'œil dessus. C'est Amazon Web Services, sans faire la pub pour ce prestataire. Vous avez toute une flopée de mesures qui sont mises en œuvre et qui sont, selon Amazon, compliant, conformes avec le RGPD.
Alors que certains centres d'appel outsourcés par des opérateurs français, au secours. Si un sous-traitant est en faute, l'entreprise cliente est aussi en faute. Qui pense que oui? 50%, qui pense que... Ça me rend tout d'un coup, qui pense que non, on est passé à 80%. Non, 2%, qui pense que... 10%. Eh ben oui.
Oui, ne sous-traitez pas vos erreurs, c'est ce qu'on a bien voulu mettre en exergue sur cette slide. Ça, c'était déjà le cas avant le GDPR, mais là, le règlement général... alourdit la responsabilité du sous-traitant et également du responsable de traitement, puisque il faut s'assurer de la bonne conformité de l'un et de l'autre avant de sous-traiter.
Bonjour, je suis un gros opérateur du gaz. Vous avez eu mon numéro comment? Ah, je peux pas vous le dire, mais on l'a acheté, donc on y est pour rien. Rendez-vous le 25. Si j'achète un téléphone chinois pas cher sur Amazon, le constructeur n'est pas soumis au RGPD, puisqu'il est basé en Chine, bien évidemment, et il peut continuer à récupérer un max de données sur moi grâce à ses spyware. Alors, qui pense que oui? 15%. Qui pense que non? 70% qui pensent qu'il ne sait pas et qui ne lit même pas d'ailleurs les conditions générales de son téléphone. 15%.
Ouais, alors c'est difficile et facile à la fois. Ce qu'il faut voir, c'est que le champ d'application j'ai vu une minute, il nous reste. Le champ d'application du règlement général.
On n'aura pas le temps.
Concerne en fait les données des citoyens européens, mais également de toute personne située dans l'espace de l'Union européenne. Donc le champ est vraiment très large. Théoriquement, on pourra poursuivre ce fabricant chinois qui ajoutera ses propres conditions générales d'utilisation en plus de celles de l'OS, de par exemple Android. Et toute la question, ça va être de pouvoir traîner en justice, si on veut, ou de faire une opération de contrôle de la CNIL, par exemple, contre ce constructeur chinois.
On est tous les deux chez OnePlus. Si votre site est mal conçu, mal sécurisé, cette fois-ci, c'est pas mort, Kiki. Tu penses que oui? 45% qui pensent que non. Zéro et qui ne sait pas. Ouais, 30%. Alors c'est déjà le cas.
C'est déjà le cas, en fait, vous aviez une obligation de sécurité qui perdure dans le GDPR, dans le règlement général. Mais ce qu'il faut voir, c'est que beaucoup de prestataires parlent de
300 000 euros d'amende jusque-là. Et qu'est-ce que c'est?
Oui, mais maintenant,
100 mètres carrés en centre-ville.
Maintenant, ça va être une très grosse amende.
Paniquez !
On vous a dit que dans les sanctions, il y avait vraiment l'obligation de cesser tout traitement. Et ça, de notre point de vue, c'est aussi important d'en parler que des amendes.
Attention, c'est 4% du chiffre d'affaires global pour même pour une filiale. Donc c'est l'ensemble du groupe qui prend, mais pour une asso, c'est aussi la même règle qui s'applique, sachant que c'est la moins favorable des deux. Donc c'est au moins 2 millions d'euros, hein, quand même. Hein,
y a un budget. Ça sera proportionnel, mais
ça va faire mal. Non, mais fais les paniquer, sinon je vends pas ta Presta, quoi. On a 3 jours pour prévenir nos clients que nous avons eu une brèche dans dans nos données qui est concernée. Qui pense que oui? 15% qui pensent que non. 10% qui ne se prononcent pas. On va dire le reste. Alors,
très schématiquement, lorsque vous êtes un responsable de traitement dans le cadre du règlement général, vous êtes obligé de prévenir l'autorité compétente, en France la CNIL, si vous avez subi une fuite de données. Donc une fuite, qu'elle soit malhonnête ou non, que ce soit un dysfonctionnement technique qui fait fuiter des données ou non. Et ce qu'il faut voir, c'est que s'il y a un risque élevé sur la vie privée des personnes concernées, donc par exemple de vos clients, vous devez également les prévenir, leur notifier qu'il y a eu une fuite des données les concernant.
Si quelqu'un le demande, devons-nous lui envoyer toutes les données qu'on a sur lui dans un format dit utilisable? Qui pense que oui? 90% qui pensent que non. 10% qui n'osent même pas y songer. Il y en a un qui a déjà essayé de faire un export sur MySQL.
Ça, c'est une réelle avancée du règlement général, c'est le droit à la portabilité.
Ça existait déjà.
Ça n'existait pas.
Ah si, en cas de service.
Là vraiment, c'est le règlement général pose un principe comme quoi vous pouvez, en tant que personne concernée, demander l'intégralité des données que vous avez confiées à un prestataire qui devra vous les rendre dans un format interopérable pour que vous puissiez soit les réinternaliser chez vous, par exemple monter votre propre serveur web en récupérant, votre propre serveur mail en récupérant tous vos mails, ou passer à un autre prestataire de service de mail.
Au hasard, si vous passez sous Diaspora. Si j'ouvre un compte bancaire, je pourrais exiger que mon nom n'apparaisse pas dans leurs informatiques. J'aurais donc un compte anonyme. Qui pense que oui? Je fais un flop sur cette question. Qui pense que non? Ouais, pratiquement 95% et ils ne se prononcent pas. Ouais, bon. On aurait pu mettre n'importe quel nom. Hein. Lui, il s'est retiré. Lui, il n'est pas animateur chez C8.
On ne peut pas demander la suppression de données qui sont, par exemple, nécessaires à l'exécution d'un contrat ou nécessaires pour une relation entre le responsable de traitement et son client, la personne concernée.
Un vendeur d'électroménager n'est pas obligé d'effacer mon nom, même si je l'exige. Vous savez, on n'arrête pas de parler du droit à l'effacement. Alors, d'après vous, oui, il n'est pas obligé d'effacer toutes les données me concernant. D'accord, j'ai 10% qui pensent que non. 60% qui ne se posent même pas la question parce qu'il n'achète pas d'électroménager, il vit dans un meublé. 15%.
Là, on a deux intérêts différents qui sont mis en balance. D'un côté, la protection de la vie privée et de l'autre, la protection du consommateur. Effectivement, dans le cas, s'il y avait un rappel qui devait être effectué parce qu'un dysfonctionnement qui pourrait être dangereux pour la personne, eh bien, on ne va pas pouvoir demander aussi facilement la suppression des données qui nous concernent parce qu'on a acheté, par exemple, un frigo ou je ne sais quoi.
Mais figurez-vous que moi, je suis dans une boîte de vendeurs d'électroménagers. On a obligation de rappeler s'il y a vraiment un danger, un frigo qui devient fou, ce que vous voulez, quoi. Ouais, ouais. Un DPO, donc, c'est le nouveau rôle, c'est le Data Privacy Officer. C'est comme un SEAL, mais en anglais, l'intitulé du poste sur LinkedIn est plus chic. Qui pense que c'est plus chic d'être DPO sur LinkedIn que SEAL? 10%. Qui pense que non? Parce que de toute façon, vous n'êtes même pas sur LinkedIn, vous êtes sur Viadeo. Et les intitulés sont qu'en français. 15%. Qui ne sait vraiment pas et se pose pas la question parce qu'il ne veut même pas l'être. D'accord. Ok.
Le DPO, pour faire très rapidement, c'est le délégué à la protection des données. Je vois qu'il faut terminer, donc je vais faire très court. C'est la succession du SIL, correspondant à informatique et liberté, qui était présenté jusque-là comme le chef d'orchestre de la protection des données à caractère personnel dans une entreprise ou dans une administration. Ce qu'il faut voir, c'est que le DPO, le règlement général lui pose des moyens renforcés dans une entreprise ou une administration. Il est obligatoire dans toutes les administrations, il est obligatoire dans pas mal d'entreprises qui traitent de la donnée de manière élevée, etc., etc. Donc on va passer
dites-vous bien que si vous faites même un fichier Excel, c'est de la donnée personnelle, avec la liste des clients, et évitez les champs commentaires libres. Le rôle du DPO est celui d'être infusible. Qui pense que oui? Qui pense que non? 20% qui pense que 20%, ok.
Non, le DPO, ce n'est pas la variable d'ajustement. Il faut voir que le délégué à la protection des données, c'est vraiment la personne qui supervise la protection de la privacy dans une entreprise ou dans une administration. Mais ce n'est pas lui qui est responsable en cas de manquement. C'est le responsable de traitement qui l'est in fine.
La CNIL a vraiment dit qu'il ne ferait pas du zèle dès le 28 mai. Oui, parce que le 25 mai, c'est un vendredi, on ne met pas en prod vendredi. Donc le 28 mai, allez, on y va, on va taper. Alors d'après vous, la CNIL va-t-elle vraiment ne pas faire de zèle dès l'ouverture du RGPD? Qui pense que oui? 15% qui pense que non? 35% et ok.
très rapidement.
Ils n'ont pas revu leur budget.
Ce qu'il faut voir, c'est que la CNIL a dit que la sanction n'était pas ce qu'elle recherchait en priorité. Mais il y a d'autres autorités européennes qui, du coup, elles ont dit que dès le 25 mai, elles engageraient des procédures pour aller chercher ceux qui ne respectent pas le règlement.